Bonsoir, comment allez-vous? Dans son livre édité chez Pocket, C'est comment l'Amérique, l'auteur d'origine irlandaise Frank McCourt, né en 1930, raconte sa vie. À 19 ans, il débarque tout seul à New York. Il est pauvre, maigrichon, les dents pourries, il est moqué pour son accent, pour ses habits, pour tout. À un moment, il est enrôlé dans l'armée qui lui propose, au bout de 9 mois, de partir ou de rester. Il serait bien resté, mais... Je vous lis ses réflexions. Je ne peux me permettre 9 autres mois ici avec les lettres de Betty me disant qu'elle compte les jours, jusqu'à mon retour. Je ne m'étais jamais douté qu'elle m'aimait aussi bien. Et maintenant, je l'aime bien de bien m'aimer, car c'est la première fois de ma vie qu'une fille me sort un truc pareil. Je suis tellement excitée d'être bien aimée par Betty que j'écris et lui dis que je l'aime, et elle me répond qu'elle m'aime aussi. Et ça m'envoie au 7e ciel et me donne envie de faire mon barda et de sauter dans un avion pour me retrouver à son côté. Vous avez entendu, comme le fait de se savoir aimer fait aimer. Si pour ce nouveau printemps, un peu frais certes, mais saison des amours quand même, on partait du principe que nous sommes aimés.
Bonjour, je m'appelle Solène, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir comment l'amour vient. Merci.
Solène, bonsoir. Comment l'amour vient? Fabrice Midal. Comment l'amour vient, demande Solène. Solène n'est plus là, on ne peut pas lui demander de précision. Elle a laissé cette question sur un répondeur.
Moi, j'adore cette question, parce que ce qui me transporte d'allégresse dans la question, c'est comment elle dit très bien « l'amour vient ». Et qu'au lieu de dire « comment je peux tomber amoureux, je ne sais quoi », elle dit « comment l'amour vient ». Et alors, ce qui est complètement frappant, c'est comme cela que parlaient les philosophes de l'Antiquité. L'amour pour eux venait, nous venait. C'était pas du tout comme pour nous un sentiment que nous ressentons, c'était comme un Dieu qui vient, quelque chose qui vient nous visiter, une expérience qui vient nous visiter, et pour eux c'était tellement beau qu'ils appelaient ça un Dieu. Alors par exemple, chez Platon, ils ne cessent de parler qu'on philosophe et on aime, parce qu'il y a un Dieu, Eros, qui vient nous visiter. Alors c'est pas du tout le Eros aujourd'hui de l'érotisme, mais pour eux, Eros, c'est le Dieu qui vient vous éveiller, il vous touche et il vous appelle à quelque chose de plus grand.
Un cadeau.
Et c'est un cadeau qui toujours a plus ça comme particularité, quand c'est Eros qui vient, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut pour être. L'amour vient comme un cadeau et vous éveille. Ah, après, il y a plein de, dans toute l'histoire, il y a plein de représentations où on voit l'âme endormie et l'amour vient la visiter et la réveille. Et donc l'amour vient nous réveiller. Et je crois que c'est extrêmement éclairant de réussir à sortir de l'idée que c'est juste une question de ressenti ou de biologie. Parce que nous, en plus, vous voyez, les adultes, ils parleraient tout de suite de biologie des émotions. Alors là, Solène, elle est beaucoup plus sage que nous. Je trouve que c'est extrêmement vrai. L'amour vient, et l'amour vient par surprise, par hasard.
Oui, est-ce que j'ai envie, je vais remplacer Solène. Comment fait-on pour faire venir Eros? Il faut s'en remettre.
Oui, il faut être ouvert à l'inconnu, il faut ne pas vouloir tout contrôler, il faut accepter l'incertain, il faut accepter de regarder ce qu'on ne regarderait pas d'habitude. Et il faut être ouvert.
Et fatalement, il viendra.
Ah oui, absolument. Et pour nous, c'est irritant, parce qu'on se dit, il faut que je l'obtienne comme je veux. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas de notre volonté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour nous ouvrir à lui. Et vous voyez, là aussi, c'est tout à fait intéressant pour nous. Soit c'est de la volonté, soit c'est rien. Et bien, entre la volonté et rien, il y a tout un champ immense. Et ça, c'est le champ où l'amour peut venir. On le pressent bien, tout le monde sent bien que je ne peux pas décider volontairement d'aimer. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien à faire pour aimer. On peut apprendre à aimer. Moi, j'enseigne beaucoup de la méditation sur l'amour bienveillant. Et je suis vraiment frappé que l'amour s'apprend. Que l'amour nous vient parce qu'on s'ouvre à lui.
Pratiquons l'amour. Fabrice Midal est philosophe et écrivain, fondateur de l'école occidentale de méditation. Il a écrit chez Flammarion « Comment la philosophie peut nous sauver ?» 22 méditations décisives. Vous trouverez l'adresse de son site ainsi que les titres de ses derniers livres sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 7 ans, presque 8, et je voudrais savoir à quoi ça sert de faire des tableaux d'une seule couleur. Merci.
Françoise Barbegat, historienne de l'art, auteure de beaucoup de beaux livres dont nous reparlerons, créatrice de Coretta, à quoi ça sert de faire des tableaux d'une seule couleur, demande Louise.
On pourrait penser, Louise, que ça sert déjà à se reposer. Parce que, au fond des images, il y en a partout. On en a chez soi, on en a dans la rue, on en a à la télévision, au cinéma, on a des photographies, on a toutes sortes d'images. Et quelqu'un qui peint un tableau d'une seule couleur nous propose un lieu où les yeux peuvent se reposer. C'est un petit peu comme du silence en couleur. C'est aussi une manière de dire quelque chose va commencer. Mais ça serait avant le début de l'histoire. Tu vois, tu m'as dit, j'ai 7 ans et presque 8. Mais pas 8 encore, presque. Via un tableau d'une seule couleur, c'est ça. C'est presque une histoire qu'on peut imaginer en train d'arriver, mais elle n'est pas encore là. Alors après, tout va dépendre de la couleur qu'on a choisie. Ça peut être du blanc, ça peut être du bleu, ça peut être du noir. Mais au fond, le peintre dit, tu as presque 8 ans, quelque chose me dit qu'une histoire est presque en train d'arriver.
Françoise Barbegat, alors mon manque de culture évidemment est criant, mais j'ai l'impression que les tableaux d'une seule couleur, on dit monochrome, ça se dit, sont ou noirs ou bleus.
Noir parce qu'on pense à Soulages. Mais c'est récent finalement. Bleu parce qu'on pense à Yves Klein,
oui.
Évidemment, dans les années 60. Mais Malevitch, carré blanc sur fond blanc.
Ah oui.
Bien sûr. Juste après la révolution d'octobre en Russie. Et il y a eu d'autres tableaux monochromes. Robert Rauschenberg, un abstrait américain, a peint des tableaux tout blancs. Et d'ailleurs, de nombreux peintres ont peint des tableaux tout blancs. Ou des tableaux en feuille d'or, donc seulement avec la lumière, la couleur et la matière de l'or aussi. Et Yves Klein, d'ailleurs, avant de peindre des tableaux bleus, a peint des tableaux tout rouges, tout orange, tout vert. En fait, il disait aussi, dès qu'il y a deux couleurs sur un tableau, il y a un drame. Parce qu'on a toujours l'impression que les deux couleurs commencent à se parler comme deux personnages. Il y en a une qui veut être plus forte que l'autre, il y en a une qui est plus douce, plus tendre, plus opaque. Et Yves Klein voulait un tableau qui, justement, soit serein. Alors, il a éliminé toutes les couleurs, et il a gardé le bleu, qui est la couleur du ciel. Quelque chose qui ne s'attrape pas.
Tous les ouvrages et toutes les conférences de Françoise Barbegat sont sur notre site.
À genoux, comme toujours, vie reliée ou périr, ensemble et se lire, mais ensemble, surtout jouer la montre, éviter les sermons. D'autres pions, oui, tout compte. Qui connaît l'enjeu, qui connaît la mise, qui connaît les règles du jeu, les promesses à l'enjeu. Acquiescer et sourire ensemble, comme absent, mais ensemble, feindre l'ennui quand tout s'effondre, porter le masque chaque seconde.
C'était Armand Méliès, Casino.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le principe de l'émission, des enfants qui posent des questions et des spécialistes qui leur répondent.
Bonjour, je m'appelle Madeleine. J'ai 11 ans. Je voudrais savoir ce qui signifie la kippa pour les juifs et aussi pourquoi les femmes n'en portent pas. Au revoir et merci.
Bonsoir Madeleine, nous avons proposé ta question à Delphine Horviller, qui est rabbin et qui dirige une revue que tu connais peut-être, la revue Ténois. Et vous venez d'écrire, Delphine Horviller avec Rachid Benzine, « Des mille et une façons d'être juif ou musulman », c'est un dialogue édité au Seuil. Alors Madeleine demande ce que signifie la kippa pour les juifs et pourquoi les femmes n'en portent pas.
Alors Madeleine, la kippa, c'est ce qu'on pourrait appeler en français un couvre-chef. C'est un petit morceau de tissu ou d'étoffe qu'on place sur sa tête et qui existe sous plein de formes, plein de tailles et de couleurs. Dans la tradition juive, en fait, depuis le Moyen-Âge, c'est les hommes, surtout les hommes, qui la placent sur la tête. Il y a des gens qui le font en toutes circonstances, toute la journée, dans la rue, à la maison. Et puis il y a des gens qui portent la kippa uniquement pour des moments plus rituels de leur vie, quand ils prient ou quand ils étudient les textes. En fait, rien n'interdit à une femme d'en porter une, mais dans certaines familles, c'est plutôt la tradition que ce soit l'homme qui en porte une. Et puis dans d'autres familles, dans d'autres traditions, les femmes aussi choisissent d'en mettre une sur la tête. Mais c'est intéressant, comme tu le fais, de s'intéresser au symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la kippa, c'est comme une conscience permanente qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et la kippa, ça représente symboliquement cette présence au-dessus de nos têtes. C'est comme si on avait besoin de nous souvenir, souvent, qu'il existe plus grand que nous, qu'il existe un au-delà de nous. C'est ce qu'on appelle, dans un mot un peu savant, la transcendance. On n'oublie jamais que le monde ne s'arrête pas aux limites de notre corps, de notre conscience, de notre expérience, mais qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on peut appeler Dieu ou l'humanité ou la responsabilité. La conscience, quel que soit le nom qu'on lui donne, on doit avoir l'humilité de savoir qu'on est tout petit. Et la kippa qui est placée sur nos têtes, ça rappelle ça. C'est comme un pense-bête qui nous rappelle que le monde est grand et qu'en fait, nous, on n'est pas grand-chose. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, ça existe dans toutes les traditions religieuses, cette idée. Par exemple, chez les chrétiens, on s'agenouille dans la prière, ou chez les musulmans, on se prosterne dans la prière. Et à chaque fois, c'est une façon d'exprimer une idée qui nous est chère à tous, à toutes les traditions religieuses. Une reconnaissance qu'on est un peu plus grand quand on sait qu'on est petit. Une conscience, en tout cas, que quand on sait qu'on est petit ou qu'il y a plus grand que nous, c'est souvent comme ça qu'on grandit.
C'est vrai, Delphine Horviller, que moi je me souviens quand, par exemple, je suis arrivée en fac, quand on posait une question à un prof et qu'il répondait « je ne sais pas », on se disait « il est fort, lui ».
Exactement, c'est cette idée que la conscience qu'on n'est pas, on ne détient pas tout le savoir, mais qu'il y a de l'au-delà de notre connaissance, il y a de l'au-delà de notre conscience. Ça a beaucoup à voir avec toute démarche spirituelle.
Et alors cette kippa, elle est en fait posée sur le 8e chakra.
Oui, alors ça serait intéressant de trouver des points de liaison, même anatomique, avec des traditions d'Extrême-Orient. En tout cas, selon certaines traditions mystiques juives, c'est le lieu effectivement d'une jonction oui, entre des mondes inférieurs et des mondes supérieurs. Voilà, c'est un point de jonction à l'extrémité supérieure de notre corps.
Oh là, 8e, je me suis un peu envolée. Non, c'est le 7e chakra qui est sur la tête. Le 6e est un petit peu entre les deux yeux. Le 5e, c'est la gorge. Le 4e, le cœur. Le 3e, au-dessus du nombril. Le 2e, en dessous du nombril. Et le 1er, entre les jambes, au niveau du périnée. Je crois que ce coup-ci, on y est.
Bonjour, je m'appelle Zoélie, j'ai 11 ans. Et je voudrais savoir si les archéologues choisissent un terrain bien précis pour faire des fouilles ou s'ils choisissent un terrain au hasard. Merci, au revoir.
Yves Coppens.
Zoélie, je voudrais te dire que bien sûr qu'on ne peut pas fouiller n'importe où, parce qu'on perdrait beaucoup de temps. Et en général, on fait une première prospection, quand on en a les moyens, par avion. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, et tout simplement parce que un fossile, pour qu'il se conserve, doit être emballé. Ça, c'est facile à comprendre, hein. Comme un emballage d'un paquet, il doit être emballé. Et pour être emballé, il faut qu'il soit dans un sédiment. Et le sédiment, ça peut être un sable, ça peut être un gravier, ça peut être un limon.
La tourbe.
Ça peut être la tourbe, bien sûr. Et donc, il faut savoir où sont ces dépôts-là pour tenter de voir s'ils contiennent quelque chose. Et donc, d'avion, on voit très bien ce que sont les massifs granitiques où on n'a aucune chance de trouver quoi que ce soit. Ça s'appelle des roches cristallines. Et puis, on voit les bassins dans lesquels il y a les sédiments qui s'y sont déposés. Et dans les bassins, il y a des sédiments. Et dans les sédiments, il y a souvent des fossiles. Et lorsque ce sont des sédiments récents, on trouve en effet des habitats humains. Donc on ne va pas à l'aveuglette, on y va avec une bonne connaissance géologique, bonne connaissance du terrain d'abord. Et puis ensuite, il y a le coup de chance qui fait que on trouve ou on ne trouve pas, mais en tout cas, ce n'est jamais au hasard.
Et il peut y avoir quand même des espèces d'intuitions extraordinaires.
Il peut y avoir des intuitions et puis il peut y avoir aussi des informations. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup sur information, c'est-à-dire que j'ai appris un jour que dans le nord du Tchad, des chasseurs qui s'occupaient de géologie, donc qui n'avaient rien à faire des fossiles, avaient trouvé des fossiles et qu'ils nous les soumettaient pour détermination. Et d'autre part, je suis allé en Sibérie parce qu'un éleveur de rennes avait vu sortir de la toundra, du sol, des bouts de défense importants quand même. Il y avait 35 cm de défense qui sortaient du sol. Alors, il n'y a rien de tel que les nomades pour connaître leur terrain et pour repérer ce qui n'est pas normal. Et là, en l'occurrence, je suis parti sur place et on a trouvé le reste du crâne et on a trouvé le corps et dans un permafrost, c'est-à-dire dans un terrain congelé de moins 15 degrés depuis 20 000 ans.
Et vous l'avez trouvé tout entier, le mammouth ?
Oui, il s'est trouvé que j'ai fouillé là où c'était fouillable en été, c'est-à-dire sur un mètre. En dessous, ça reste complètement gelé. Et le reste, je l'ai fait au marteau-piqueur. Et un beau matin, je suis allé à la fouille. Et au fond de ma fouille, j'ai trouvé des espèces d'étoupes de morceaux de jute. Et je me suis aperçu que j'étais sur les poils du mammouth, c'est-à-dire j'étais sur le dos. J'étais sur le dos du mammouth de 20 000 ans qui était en dessous.
Génial. Vous connaissez bien sûr bien Yves Coppens, paléontologue, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Il a écrit de nombreux livres, souvent chez Odile Jacob, dont vous trouverez les références, comme d'habitude, sur franceinter.fr à la page des petits bateaux. Notre numéro 01 56 40 43 57, c'est un répondeur patient. Posez votre question, prenez votre temps. Il y a un instant que vous pouviez être décontracté sur notre répondeur parce qu'il était patient. Parfois, on entend des parents qui souffrent, qui disent « Dis ton nom, dis ton âge ». Laissez vos enfants se débrouiller. Si la question est ratée, ben, c'est pas grave. Ils recommencent ou ils recommencent pas s'ils n'ont pas envie. Mais ça n'a aucune importance. Laissez-les tranquilles.
Bonjour, je m'appelle Anatole, j'ai 16 ans et j'aimerais connaître la différence entre l'arabica et le robusta. Merci, au revoir.
Bonsoir Anatole, et merci pour cette question, parce que moi aussi, à chaque fois que j'achète un paquet de café, je me dis, mais d'abord, quel est le meilleur, et puis quelle est la différence? Patrick Masson, vous êtes directeur général de la maison Paul Jobin à Wavre, donc vous êtes importateur de café.
Tout à fait madame, de café vert, c'est-à-dire le café non torréfié. Parce que le café, vous le savez, est un fruit, à l'origine, il est contenu dans des cerises, et ensuite on le traite de différentes façons, nous en reviendrons probablement, mais Ce café, il faut ensuite le torréfier pour pouvoir développer les arômes. Et moi, j'importe du café vert pour le vendre au torréfacteur. C'est ça, mon métier. Alors maintenant, pour revenir à la question d'Anatole, il nous demande quelle est la différence entre l'arabica et le robusta. C'est assez simple, finalement. Il y a plusieurs espèces botaniques en café. Il y en a même 500 différentes. Et il y a deux espèces qui sont vraiment répandues au plan commercial maintenant. C'est d'une part l'arabica. Alors, le nom scientifique, c'est Coffea arabica. Et le robusta, dont le nom scientifique est le Coffea canephora. Ces deux espèces présentent des caractéristiques différentes, tant au niveau du goût qu'au niveau de la culture. Alors tout d'abord, en termes d'implantation, il faut savoir que le café Robusta est principalement, a été principalement implanté et découvert en Afrique de l'Ouest, dans le bassin du Congo, pour ensuite être répandu à la fois en Asie et en Amérique latine. Le plus gros producteur de Robusta au monde aujourd'hui, c'est le Vietnam, qui produit à peu près 30 millions de sacs de Robusta, alors que la production mondiale se situe à 150 millions de sacs.
Un sac, il pèse combien ?
Un sac pèse 60 kilos. Et alors que l'Arabica est produit, lui, dans les pays d'Amérique latine, le berceau de l'Arabica, c'est l'Éthiopie, où on a découvert les premiers grains d'arabica, et ces premiers grains d'arabica ont été appelés l'arabica typica, pour ensuite être déclinés dans différents cultivars et arriver à créer différentes espèces qui notamment sont mieux armées pour résister à la rouille, etc. Alors, en termes de goût, vous demandez toujours quel est le meilleur. Beaucoup de gens me posent la question. C'est vrai que l'arabica est un café en général plus doux, un café qui va être acide et non pas amer, alors que le Robusta peut être, lui, avec un petit peu plus acre. Et en général, le Robusta est utilisé en mélange parce que ça présente là aussi des avantages. Ça permet de donner un peu plus de corps à certains cafés et aussi de donner, par exemple, ce qu'on appelle une belle mousse ou une belle crème sur les cafés espresso.
Est-ce qu'à cultiver, il présente les mêmes avantages ou les mêmes inconvénients, ou l'un est plus fragile ?
Alors, le Robusta, comme son nom l'indique, c'est robuste. Et le café Robusta résiste beaucoup mieux à toutes les maladies. Il est d'ailleurs cultivé, grosso modo, au niveau de la mer, entre 0 et 700 mètres, on va dire. Alors que l'Arabica est cultivé en général à partir de 700 mètres, plutôt en altitude. J'ai connu quand même des endroits où on cultivait du Robusta bien plus haut. Je pense à l'Ouganda, on a de très bons Robusta qui sont situés au-delà de 1500 mètres d'altitude. Mais globalement, le Robusta est surtout un arbre, un arbuste qui résiste très très bien à toutes les maladies, ce qui n'est pas le cas de l'Arabica. C'est pour ça qu'on a fait des recherches et qu'on a décliné autant de sous-espèces botaniques, de cultivars, pour arriver à créer des genres de café qui résistent à la rouille, ce qui est une maladie du caféier, ou bien à toutes sortes d'infestations possibles.
Est-ce que c'est traité, les caféiers comme les vignes, par exemple ?
Alors, les caféiers sont traités, c'est vrai. On utilise notamment un certain nombre de pesticides, obligatoirement. On utilise aussi un certain nombre d'engrais. Hein. Ouais. Mais il existe de plus en plus ce qu'on appelle les cafés biologiques ou organiques, qui là sont sur des sols vérifiés, qui n'ont pas reçu d'engrais, qui n'ont pas reçu d'engrais chimiques ni de pesticides chimiques, et qui sont ensuite vendus avec un label organique.
Notre Monsieur Café, c'était Patrick Masson. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous reviendrons dimanche prochain, un petit 19h30. Nous, c'est Jean-Baptiste Audibert et Maxime Ingrand pour les garçons, Marjorie Devoucou, Eliane Girard, Noël Bréham pour les filles. À franceinter.fr, page Petit Bateau, vous trouverez tout ce que vous voulez. Et pour l'heure, eh bien, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.